morning edition from NPR News.
Let's see things on Peter House. Hi,
I'm Radio Rosalie Paris.
Produce a guest on the radio.
France Inter. Le 18.
Même dans un trou de souris, la diplomatie trouve son chemin. Est-ce que c'est encore le cas en ce moment entre les Russes et les États-Unis autour de l'Ukraine? Est-ce qu'on attend au contraire la première étincelle qui nous emmènera où? On y vient tout de suite avec le grand invité ce soir d'Un jour dans le monde. Le bruit du monde est aux Canaries. Ça fait un mois maintenant que le volcan s'est tu. Mais tout reste à faire et c'est ce que Béatrice Duguay va nous raconter. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legeny a trouvé une panne d'électricité due au Bitcoin au Kazakhstan, des masques chirurgicaux défectueux en Suisse et des tourbières qui dessèchent en Grande-Bretagne. Vous verrez pourquoi c'est très important. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce. On va parler de femmes robots et de sièges passagers en Ouganda également. 18h55, c'est le monde d'après de Jean Marfour. Ou comment le putsch au Burkina affaiblit encore une position française au Sahel. Déjà bien affaibli, le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Jean de Glynasty.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions russes. Vous avez été ambassadeur de France en Russie entre janvier 2009 et octobre 2013. Depuis quelques jours, monsieur de Glynasty, depuis même le rendez-vous Biden-Poutine du 16 janvier dernier, on entend les Américains avoir un discours extrêmement alarmiste, demander même aux ressortissants de quitter l'Ukraine, mettre ses hommes en alerte. Le discours de Biden, c'est celui d'une attaque imminente des Russes en Ukraine. Mais est-ce que la situation est vraiment différente de la situation d'il y a une semaine ou même avant? Sur quoi repose ce discours selon vous? Est-ce qu'il y a vraiment un plus grand risque aujourd'hui que Moscou bouge réellement à l'intérieur de ce pays?
Alors, plus grand risque, je ne sais pas. En avril de l'an dernier, il y avait déjà 100 000 hommes russes, des chars, des avions. Et en face, il y avait les manœuvres Defender 21, les plus grandes manœuvres de l'OTAN depuis 25 ans. Donc, évidemment, ça ne change pas. Peut-être l'élément un peu nouveau qui change, c'est que, en fait, il s'agit de concentration d'hommes et de matériel qui peuvent être utilisables du jour au lendemain en faisant venir des effectifs pour servir les camions.
Ce qui n'était pas le cas la première fois, c'était pas les mêmes 100 000 hommes.
Non, c'était des manœuvres, de vraies manœuvres. Cela dit, il va y en avoir aussi en Biélorussie. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? Il a changé, paradoxalement en bien, le fait que pour la première fois, les Russes ont fait une proposition de traité et que les Américains ont accepté de faire une contre-proposition. Donc avant la fin de la semaine, nous aurons les contre-propositions américaines. Alors, c'est normal qu'au début d'une négociation, tout le monde dit « vous allez voir ce que vous allez voir », on fait monter les enchères, les Russes avaient dit « tout est à prendre ou à laisser, pas question de négocier », puis ils ont un peu amélioré, les Américains ont dit « c'est inacceptable », et puis finalement... Bon. Donc en fait, nous sommes dans à l'aube d'un processus de négociation sur la sécurité en Europe qui va être très long, très difficile, et qui va être risqué, parce qu'on ne regroupe pas impunément d'énormes moyens militaires et on sait très bien que des deux côtés, tant du côté ukrainien que du côté russe, il y a des gens qui voudraient régler cette affaire. Alors, très vite.
On va y venir, mais du coup je vous entends, c'est comme un coup de bluff géant, en fait, de part et d'autre, finalement, de la part des Américains comme de la part des Russes.
Ben, les Russes, ils ont dit clairement qu'ils n'avaient pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Souvent, on dit que Poutine fait ce qu'il dit et
pas ce qu'il fait.
Et fait, voilà.
Et inversement.
Mais en fait, il a dit, je n'envahirai pas l'Ukraine, mais il peut y avoir des actions militaires, etc. Et les Américains aussi, c'est toute une gesticulation. Il est normal de faire monter les enchères dans une négociation aussi délicate et aussi sensible. Les Russes veulent négocier en mettant la pression sur leurs adversaires, et les adversaires ou leurs partenaires ne veulent pas subir cette pression, et au contraire, ils veulent mettre la pression sur les Russes.
Mais du coup, c'est un partout la balle au centre, en fait. Il n'y en a pas un qui escalade plus que l'autre, pardon de le dire en ces termes-là, mais c'est un partout la balle au centre.
Ah, pas quand même. Le risque d'invasion de l'Ukraine, c'est quelque chose de concret, et ça serait un déséquilibre majeur. L'OTAN n'a jamais dit qu'il envahirait la Russie.
Vous l'avez un peu évoqué sur le... En effet, 100 000 hommes, et 100 000 hommes qui sont stationnaires, c'est autre chose effectivement que des manœuvres. Est-ce que Moscou tient ses hommes? Il y a des groupes très pro-russes de l'autre côté aussi. Il y a un certain nombre de gens même qui pensaient que lorsque la Crimée a été annexée, il fallait même aller plus loin, il fallait marcher vraiment dans le Donbass. Donc est-ce que Moscou tient ces hommes-là? Est-ce que l'étincelle peut venir en dépit de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est un grand risque, ça?
C'est deux questions un petit peu... très légèrement différente. Moscou tient le Donbass, c'est très clair. À certains moments, il y a des dirigeants du Donbass qui ont des velléités d'indépendance, de politique autonome, et ils ont été mis de côté pour ne pas dire parfois violemment.
Ouais.
Donc le Donbass est tenu, c'est clair. En revanche, il y a en Russie, à la droite de Poutine, des mouvements. J'ai écouté une émission de télévision absolument ahurissante, où il y avait Jirinovski, le parti d'extrême droite, qui est présenté à la Douma, discutant avec un présentateur de radio, et qui envisageait froidement l'hypothèse d'une guerre nucléaire, et disant il faut attaquer l'Ukraine, etc. Poutine a une droite à sa droite qui est qui se manifeste bruyamment et qui peut exercer une pression.
Qu'il y a de l'écho auprès des soldats russes, par exemple, parce que c'est de là que peut venir une étincelle. C'est quoi, en fait, au moment où on se parle, ce serait quoi une étincelle?
Alors. Une étincelle, ça serait une offensive ponctuelle, parce que il y a des extrémistes des deux côtés. Hein. Il y a l'État profond russe qui est profondément anti-occidental, et puis il y a du côté ukrainien des groupements d'extrême droite qui pensent que la seule façon de récupérer l'intégrité territoriale du pays, c'est de faire la guerre. Donc il peut y avoir un incident, et puis l'un des deux gagnerait du terrain, ce qui susciterait une réaction de l'autre et un engrenage et une escalade. Pour l'instant, c'est tenu, si je puis dire.
Mais est-ce que Poutine peut réellement faire marche arrière comme il l'a fait lors de l'épisode précédent? Vous rappeliez au mois d'avril, effectivement, c'était pas la même chose. Est-ce qu'il peut tout simplement, doucement, retirer ses troupes? Est-ce que c'est finalement aussi simple que ça?
Alors, en avril, il y a eu une négociation avec les Américains. Je me souviens qu'il y a un navire de guerre américain qui a rebroussé chemin en mer Noire. Avec Biden et Poutine a réglé des choses, on a fait baisser la tension, et j'imagine qu'il y avait des concessions réciproques. Le problème, c'est que, évidemment, et vous pouvez soulever une vraie question, c'est qu'à partir du moment où vous avez dit vous allez voir ce que vous allez voir, c'est à prendre ou à laisser, etc. Ensuite, un retrait stratégique est plus compliqué. Alors, cela dit, ils ont commencé à le faire, le retrait stratégique, et en même temps, ils ont obtenu pour la première fois que les Américains fassent un projet de traité, un contre-projet, et donc la négociation se noue. Je pense que les Russes et l'opinion russe est suffisamment formée ou sage, si je puis dire, pour savoir que quand il y a une négociation, il y a nécessairement des concessions.
Mais j'allais dire quand bien même, en fait, monsieur de Glinasty, imaginez qu'il y ait cette étincelle et qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe réellement? Les Américains vont pas mourir pour Kiev, même si...
Ils l'ont dit, d'ailleurs.
Voilà, même si, effectivement, on a bien vu qu'il y avait des mouvements de troupes ici et là, jamais il y aura de troupes au sol. La question ne se pose même pas demi-seconde. Donc, à quoi ça ressemblerait, ce conflit-là, en fait?
Moi, je ne crois pas que... bien sûr, il y a toujours un risque d'escalade, mais je pense pas que cette escalade aille très loin. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à Poutine en 2014 n'a pas avoir réglé son compte à l'Ukraine. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, nous ne sommes plus en 2014. L'Ukraine a une armée constituée, elle a touché des missiles, elle vient de recevoir 650 millions de dollars des États-Unis. Donc c'est un pays qui est beaucoup plus puissant et il y a un léger redressement économique. Donc finalement, ça ne sera pas une promenade de santé si la Russie veut envahir l'Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça que le président Poutine a dit « moi, j'en ai pas l'intention du tout ». Alors maintenant, un incident, il dégénérera, ça va faire peur, mais j'espère que ça ne dégénérera pas complètement compte tenu de ce que je viens de vous dire.
Il faut de toute façon que tout le monde s'en aille en gardant, sans perdre la face, en fait. Et d'un côté comme de l'autre, est-ce que pour l'instant, le fait effectivement qu'il y ait une porte de diplomatie qui soit ouverte, qu'il y ait un certain nombre de j'allais dire engagement, on va peut-être pas pousser jusque là, mais en tout cas qu'il y a des choses qui ont commencé, est-ce que ça suffit à ce que à un moment ils puissent dire l'un comme l'autre c'est bon, on rentre chez nous? Même si c'est pas comme ça qu'ils le diront, mais sans perdre la face.
Ça va être un processus long. Parce que quand vous regardez, il a fallu 3 ans pour la charte d'Helsinki, les forces conventionnelles en Europe, ça a pris 3 ans aussi, les forces nucléaires intermédiaires, ça a été plus rapide. Donc ça prend du temps. Mais tant qu'il y a un processus de négociation en cours, la face est préservée, et puis après, c'est à chacun de faire en sorte que l'autre n'apparaisse pas comme un perdant. Ça sera plus difficile pour les Russes que pour les Américains, parce que les Russes ont commencé très fort dans la surenchère.
Est-ce qu'ils peuvent répondre différemment, c'est-à-dire choisir d'autres terrains? Vous avez parlé des manœuvres en Biélorussie, par exemple. Enfin, il y a des manières détournées que peuvent avoir les Russes de continuer à montrer leur force et leur puissance sans pour autant appuyer sur un point qui serait effectivement un point de non-retour.
Oui, il y a une gamme complète. J'ai lu des politologues qui ont souligné ça. En fait, la préoccupation essentielle des Russes, c'est la sécurité en Europe, c'est l'Ukraine, c'est le fait de ne pas avoir de troupes à 100 km de Saint-Pétersbourg. Donc c'est tout. Ça fait 20 ans, même 30 ans qu'ils le disent, puisqu'ils l'ont dit en 90 à la conférence de Paris qui s'est terminée en fait en remettant le bébé à l'OTAN fait et pas à l'organisation internationale que Mitterrand voulait créer. Donc je crois que les Russes ils saisissent, sont un peu opportunistes, une occasion de marquer des points. Mais leur vrai sujet, c'est la sécurité en Europe.
On a lu la même chose tous les deux. Ça parlait effectivement de manœuvres en Biélorussie et même de déploiement d'armes nucléaires dans certaines régions nouvelles. Vous n'y croyez pas?
De la part de la Russie?
Ouais. Alors, qui serait une manière détournée de toujours garder, montrer ses muscles, mais sans pour autant commettre d'erreurs en Ukraine.
Oui, alors des régions nouvelles. Alors, il y a eu dans la presse russe, pas seulement de droite. On a évoqué l'idée de mettre à nouveau des armes nucléaires à Cuba, etc. Il y a ce mythe de l'accord de 62, après la crise des missiles de Cuba, où les Russes avaient obtenu, à l'époque on ne l'avait pas dit, mais le désarmement des missiles Jupiter, qui était à 5 minutes de Moscou, basé en Turquie. Pour les Russes, Cuba s'est terminé par une victoire diplomatique. Donc, l'idée sous-jacente de la part des Russes disant que finalement, si vous installez des missiles en Roumanie, en Bulgarie, à 5 minutes de chez nous, nous on va en mettre à Kaliningrad et peut-être même ailleurs, à Cuba et tout. Mais ça fait partie quand même des gesticulations. En tout cas, ça montre dans l'esprit des Russes le caractère pertinent et nécessaire d'une telle négociation.
Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de le faire, ce on va appeler ça ce chantage à l'OTAN, de demander des garanties? On sait bien ce que ça veut dire l'Ukraine pour Vladimir Poutine et pour les Russes d'une manière générale. Il l'a déjà dit d'ailleurs à de multiples reprises. Donc au fond, et si on se met dans la peau de Vladimir Poutine, est-ce qu'on se dit que oui, il a raison en fait, au fond, en tout cas de son point de vue?
Je crois que les Russes sont pas idiots. Ils ont compris qu'ils ont perdu l'Ukraine, en fait. Ils ont perdu l'Ukraine. C'est très intéressant de voir que même les communes, il y a quand même 30% de russophones et presque autant de Russes ethniques. Mais ceux-là sont derrière l'Ukraine. Ils se sentent ukrainiens de plus en plus, alors que c'était pas le cas en 2014. Donc, pour au moins une ou deux générations, l'Ukraine est perdue. Et en fait, maintenant, la priorité pour les Russes, c'est, tout en reconnaissant qu'ils ont perdu leur zone d'influence en Ukraine, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas une zone d'instabilité qui menace leurs frontières.
Est-ce que l'autre raison, c'est aussi que, au fond, Vladimir Poutine n'est pas prêt à payer en termes d'isolement, en termes de nouvelles sanctions? Enfin, ça deviendrait beaucoup trop lourd sur les épaules russes, ou ça ne rentre pas en ligne de compte? Je vous vois faire la moue.
Oui, parce que les sanctions, l'efficacité des sanctions, elle est vraiment sujette à caution. Les sanctions punissent surtout les Européens. Les Américains ont augmenté leur part de marché, les Français ont divisé par deux leurs flux commerciaux avec la Russie. C'était un des rares pays où on vendait de la haute technologie et des choses comme ça. Donc on est passé de 20 milliards à 10 milliards et les Allemands ont perdu 3 points de part de marché au profit de la Chine, qui ne regagneront jamais après les sanctions de 2015. Donc en fait, tout le monde sait, et les Européens le savent, et c'est pour ça qu'ils ont un peu de nuance par rapport au point de vue américain, et que, en dehors des peut-être des quelques Baltes ou des Suédois, les roulements de tambour sur l'aggravation des sanctions sont vus avec une certaine circonspection par les Français, les Allemands. Donc, en plus, on a vu que les sanctions n'ont pas fait changer d'un iota la position russe. À long terme, peut-être, ça peut avoir des effets sur les hautes technologies, sur tout ça, mais à court terme, non.
Vous avez évoqué l'Europe, monsieur de Linasty. Nous sommes en solidarité avec l'Ukraine et pleinement engagés. C'est ce que dit là, il y a quelques minutes, Emmanuel Macron. Il peut toujours le dire, mais où sommes-nous, nous, là-dedans, si ce n'est nulle part, en fait?
Ben, nous sommes nulle part, comme vous dites. Mais ça, c'est pas de la faute du président Macron, ni de la faute de Merkel. Vous vous souvenez que le 16 juin 2021, quand les Allemands et les Français se sont rendus compte que Biden et Poutine parlaient de l'avenir de l'Europe, de la sécurité en Europe et de l'Ukraine, même s'ils l'ont pas avoué officiellement. Donc aussitôt, Merkel et Macron ont demandé que l'Europe engage un dialogue avec la Russie. Et en fait, ils se sont cassés le nez, ce qui est rarissime. Quand la France et l'Allemagne sont d'accord, c'est rarissime qu'ils n'emportent pas le morceau. Ben là, ils l'ont pas emporté, on leur a dit non, la sécurité en Europe, c'est du domaine de l'OTAN.
Et monsieur de Linasty, du point de vue des Américains, perdre ce bras de fer, à votre avis, ça pourrait signifier quoi? Qu'est-ce que ça induit si le bras de fer avec les Russes est raté? Je pense même aux autres fronts qui ne sont pas réellement des fronts, mais auxquels font face les Américains en ce moment, vis-à-vis des bras de fer permanents avec les Chinois, par exemple. Perdre celui-là, est-ce que ça implique des dominos avec les autres antagonistes aux États-Unis, si je puis dire?
Alors, c'est une négociation. Une négociation, il y a un aspect bras de fer, puis il y a un aspect définition des objectifs de l'adversaire, de façon à lui donner suffisamment pour qu'il ait satisfaction, trouve satisfaction dans la négociation. La priorité américaine, c'est la Chine. Et les Américains ne veulent pas ouvrir un second front en Europe, parce que ça va les gêner, ça ne ferait que les affaires de la Chine. Donc je pense que ni les Russes ni les Américains ne souhaitent un conflit. Le problème, c'est que dans le projet de traité russe, il y a trois éléments. Il y a le désarmement conventionnel, les tanks, les canons, etc. Il y a le désarmement nucléaire. Ça, c'est tout à fait, c'était l'ancien traité des forces conventionnelles en Europe. C'est les forces nucléaires intermédiaires que Trump a dénoncé, le traité qu'il a dénoncé. Donc ça, c'est faisable. Mais il y a un troisième volet dans la proposition russe, c'est l'engagement pris par l'OTAN de ne pas accepter de nouveaux membres et de ne pas installer des éléments permanents et de renforcement militaire.
Et de le signer.
Et de prendre un engagement en ce sens. Et ça, évidemment, c'est très difficile parce que la politique de la porte ouverte de l'OTAN est un peu une vache sacrée et qu'il n'est pas question de créer des États membres de deuxième catégorie. Mais il y a, par exemple, les Américains ont fait une proposition que les Russes ont recusée, qui était, par exemple, de prendre l'engagement d'un moratoire avant l'élargissement de l'OTAN. Les Russes ont dit, ça m'intéresse pas, etc. Mais on n'est qu'au début de la négociation.
On est qu'au début, ça veut dire qu'on prend un pari sur la fin. C'est une histoire de 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est une histoire
d'où, là?
De plus que ça encore?
Bah,
de
comme
toute
je
l'année.
Vous l'ai dit, 3 ans pour Helsinki. 3 ans pour les forces conventionnelles. Donc non, c'est le début d'une grande aventure avec beaucoup de risques, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un risque d'escalade.
Eh bien, c'est un ancien ambassadeur qui le dit, et donc on vous croit vraiment sur parole, Jean de Linasty. Merci beaucoup de votre passage dans un journal.
Merci
monde.
À vous.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe aux Canaries, dans l'île de Palma, où certes le volcan a cessé de cracher, il dort à nouveau, mais les habitants évidemment ne sont pas sortis d'affaires, et c'est ce que Béatrice Duguay va nous raconter. La troupe habituelle qui nous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
Un scandale éclabousse l'armée suisse, accusée de s'être débarrassée d'un stock de masques chirurgicaux défectueux.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, on ira au Chili avec un gouvernement tout neuf, plein de jeunes et plein de femmes, oh mon Dieu.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir à vous, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Un pass militaire, un pass politique. La France apparaît sans solution au Sahel après le putsch militaire au Burkina Faso.
A tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il continue avec une des petites pépites préférées de France Inter. Billie Eilish, Billie Bossa Nova sur France Inter.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds, a lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings,
for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something.
Ce soir est aux Canaries, sur la petite île de La Palma, un mois pile après ce que vous entendez là, c'est-à-dire un mois pile après l'extinction maintenant du volcan Cumbre Vieja. L'heure bien sûr est à la reconstruction. Le gouvernement des Canaries met plus de 227 millions d'euros sur la table. Le gouvernement espagnol, l'Europe, débloque aussi des millions pour aider cette petite île qui vit de tourisme et d'agriculture. L'éruption, vous l'imaginez, a fait énormément de dégâts dans une partie habitée, cultivée, prospère de cette île. Et vous allez comprendre que ça n'est pas parce que l'éruption est finie que tout est rentré dans l'ordre. Loin de là, le reste, c'est Béatrice Duguay qui raconte.
Imaginez-vous qu'une montagne a fait son apparition dans le paysage des Palmeros. Et puis une longue balafre noire de lave aussi, sur laquelle rien ne va pousser pendant des dizaines d'années. Et des tonnes de cendres qu'il faut évacuer. Éruption que Pedro Hernandez, volcanologue chez Involcan, n'est pas prêt d'oublier.
On a vu comment les coulées ont pu recouvrir des maisons entières, des zones agricoles. Et donc de voir les gens souffrir, ça n'a rien d'agréable. Et tu te sens mal de voir la souffrance de tous ces gens. C'est une éruption qui a été très dévastatrice. C'est la plus dévastatrice d'Europe depuis 80 ans. Et je suis d'ici, des Canaries. Ça nous a affecté bien plus que si ça avait été dans un autre endroit de la planète.
Dos espectrómetros, toda una estación geoquímica muy sofisticada.
Les scientifiques ne manquent pas de matériel de mesure, capteurs, spectromètres, drones, pour assurer tous les jours, week-end compris, la surveillance de ce volcan, même éteint, parce que la bête reste dangereuse. Elle dégage du gaz, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre notamment, qui empêche par exemple Juan de rentrer chez lui à Puerto Naos. Juan Bonillo, retraité, logé depuis 4 mois dans un complexe hôtelier touristique. Aujourd'hui, il déprime.
Un hôtel, c'est bien quand on est en vacances, pas quand on est délogé. Ici, il y a des horaires, de 13 à 15 heures, et à partir de 19 heures le soir. Donc si je veux manger des patates frites à minuit, ben je peux pas. Donc c'est comme ça, t'as plus de maison, t'as plus d'intimité. Tout ce que représente un lieu de vie. Donc il y a beaucoup de choses qui me manquent. Tu ne peux pas te faire à manger, te lever quand tu en as envie, tu comprends? Et maintenant, c'est ce qui reste. Tout ce mal, c'est cette incertitude de ne pas savoir, de voir la souffrance des personnes qui ont tout perdu.
L'accès à Las Manchas a rouvert il y a quelques jours. Las Manchas est un village qui est au sud du Cumbre Vieja. Mais juste en dessous, le volcan, il est là devant moi, avec ces traces de soufre là. On voit le dôme du volcan d'ici, et pas la coulée de lave. La coulée de lave, elle est de l'autre côté, mais ce village de Las Manchas, il est vraiment sinistré. Il est sous la cendre. Devant moi, il y a une entreprise dont la toiture a cédé sous le poids des cendres. Il y a une noria de camions qui transportent ces tonnes de cendres. Mais le village est noir, c'est assez terrible. D'autant que cette cendre, elle n'est pas légère. Elle est comme des copeaux de lave, en fait. Très, très abrasive. Donc il faut porter des lunettes parce que ça fait mal aux yeux, ça abîme les yeux. 2800 maisons et entreprises ont été emportées par la coulée de lave du Cumbre Vieja. Des routes aussi sont inutilisables pour longtemps parce que la lave, très épaisse, ne va pas froidir tout de suite. Yeray, dont la plantation de bananes à Los Llanos est partiellement détruite, en témoigne.
Oui, c'est chaud. Si tu viens là, note le changement de température à l'intérieur. C'est pas trop froid. Imagine une assiette de soupe. Tu veux la manger sur le bord ? Tu peux, c'est froid. Mais si tu multiplies par les couches, tu atteins beaucoup de degrés dedans. On peut penser que du liquide coule encore en dessous, et je le crois.
Les hommes ne sont pas les seuls chamboulés par cette éruption. La faune souffre dans les plantations de bananes, par exemple. Les conséquences sont flagrantes, raconte Antonio Ortegas, technicien à la coopérative Coupalma.
Moi, j'ai remarqué une forte mortalité de petits lézards, de geckos, de grenouilles dans les plantations de bananes. Il y a une forte mortalité parce qu'il y a eu beaucoup de cendres dans des quantités énormes. Et personnellement, je ne les ai pas vus morts, mais beaucoup d'agriculteurs me racontent qu'ils ne voient plus de petits rats, de lézards, de geckos. Voir les araignées qui, normalement, font des toiles partout, ont complètement disparu.
Les oiseaux, eux, se sont envolés dès les premiers instants de l'éruption vers des zones plus habitables, mais ils risquent de manquer de nourriture puisqu'il y a moins d'insectes. Et dans certains villages exposés, les faucons, les passereaux s'asphyxient à cause des gaz. La végétation, de son côté, digère un peu mieux l'épisode. Surtout, les pins canariens, ce qui n'a pas brûlé, donne des signes de vie merveilleux, raconte Manuel Nogales, biologiste.
Voilà des photos d'hier, au milieu de la coulée de lave et des cendres. C'est incroyable. Vous voyez ?
Un bourgeon.
Et comme vous pouvez voir, les pins ont l'air morts, mais ils ne le sont pas.
Il y a clairement une petite branche qui est en train de repousser.
Ok, and this is...
En fait, une part des pins que nous avons observés hier pendant notre prospection sont totalement morts. Ces pins étaient plus exposés aux pluies de cendres. Mais le reste des pins étaient protégés par la montagne et ils sont toujours vivants et produisent des rejets comme ça. Les pins canariens sont incroyables, vous savez.
Cette éruption aura été une des plus mesurées de la planète en temps réel. Elle a permis aux scientifiques d'apprendre beaucoup sur les éruptions dans cette zone du globe pour mieux préparer les suivantes. Car c'est sûr, des éruptions, il y en aura d'autres aux Canaries. Tout l'archipel est volcanique.
Béatrice Duguay pour le reportage. Merci beaucoup. À très très vite, le bruit du monde. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Et nous sommes dans les rues calmes d'Almaty, la capitale économique du Kazakhstan. Sébastien, le Kazakhstan privé d'électricité ce matin et peut-être à cause de sa passion pour le bitcoin.
Oui, ce n'était pas la seule ville et le seul pays dans cette situation aujourd'hui. Fabienne, même chose à Tashkent, la capitale ouzbek, à Bishkek au Kyrgyzstan. Métro à l'arrêt, aéroport bloqué, téléphérique coincé avec des skieurs à bord. C'est toute l'Asie centrale qui s'est retrouvée pendant quelques heures sans électricité à cause d'une panne qui trouve en effet en partie son origine au Kazakhstan. Le réseau hérité de l'ère soviétique qui est vétuste, la sécheresse a lourdement affecté la production des centrales hydroélectriques et enfin il y a ce boom du minage de bitcoin. Le Kazakhstan est devenu le deuxième pays au monde producteur de cette crypto-monnaie, une activité très très gourmande en électricité. On entend là l'un des principaux promoteurs du bitcoin au Kazakhstan, pays idéal dit-il pour cette activité car l'électricité y est très peu chère, très abordable et que le climat y est froid, parfait donc pour refroidir les machines, les ordinateurs. Des ordinateurs qui tournent à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans des usines de minage gigantesques, sans compter avec des fermes de minage illégales qui pompent le système hors de tout contrôle. Au final, un véritable gouffre à énergie à tel point que la demande en électricité au Kazakhstan a bondi de 8% depuis le début de l'année, ingérable pour un réseau encore fragile, si bien que des dizaines de villes, de villages kazakhs ont été plongés dans le noir à plusieurs reprises depuis le début de l'hiver.
Direction maintenant la Suisse, où l'armée est au cœur d'un scandale.
Une affaire de masques chirurgicaux défectueux qui fait la une des journaux helvètes.
Il se trouve que l'armée suisse a vendu des masques de très mauvaise qualité par milliers à des hôpitaux, des écoles, des entreprises, près de 3,5 millions au total. Le problème, c'est que l'institution savait pertinemment que ces masques achetés en Chine n'étaient pas efficaces. Ils laissaient passer 3-4 fois plus de particules que les autres modèles. L'État allemand de Bavière était arrivé à cette conclusion similaire et les avait renvoyés en Chine. Mais l'armée suisse, elle, a préféré vendre son stock inutilisé. Un stock acheté à prix d'or au début de la pandémie, 200 millions d'euros, et revendu ensuite à prix cassé, très cassé, jugé plutôt prix d'achat à l'unité 70 centimes, pardon, pièce, prix de revente 1 centime par masque. Un scandale qui n'est pas le premier dans le pays. En juillet 2020, déjà, l'armée suisse avait rappelé plusieurs stocks de masques contaminés par des champignons initialement livrés dans des institutions cantonales et des hôpitaux.
Allez, on termine dans les tourbières britanniques où des trésors archéologiques sont menacés.
Oui, les tourbières, un écosystème très particulier en Grande-Bretagne, 10% du territoire, des zones humides gigantesques mises en péril donc par le réchauffement climatique, le réchauffement qui assèche le sol. Or, ces tourbières sont depuis des siècles des lieux privilégiés pour la conservation des objets anciens, un paradis pour les archéologues. On y a trouvé le plus ancien gant de boxe du monde, des sièges de toilettes de l'époque romaine ou encore une lettre manuscrite datant de plusieurs siècles, le tout dans un état presque parfait, mais la hausse des températures inquiète désormais les chercheurs. Les journalistes de la BBC à l'origine de cette information expliquent le phénomène. Dans les tourbières très hermétiques, le bois, le cuir, les textiles ne pourrissent pas, ils peuvent survivre pendant des milliers d'années, mais avec le réchauffement, le sol se craquelle, l'oxygène peut alors pénétrer la terre, ce qui enclenche un processus de décomposition. Au total, 22 500 sites archéologiques au Royaume-Uni pourraient être en danger. L'excavation de ces sites pourrait coûter des centaines de millions d'euros à la Grande-Bretagne et prendre des décennies.
Merci beaucoup Sébastien Nogeni. Bien sûr, à demain, vous repartez avec un petit morceau de la programmation de Djoubaka, Geoffrey Oyema, Yé Yé Yé. Geoffrey Oyema, Yé 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 sur France Inter. Yé 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 aussi, mesdames, messieurs et autres gens. Voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète aux couleurs LGBT. On commence par le point linguistique de la semaine.
Ne dites plus les hommes conduisent comme des manches, mais plutôt les femmes porte des jupes. Ça se passe en Ouganda depuis la semaine dernière. À Lira, grande ville du nord du pays, les femmes n'ont plus le droit de monter à l'avant des camions. Pourquoi? Eh ben parce qu'elles portent des jupes. Eh ben oui, que du coup, ça déconcentre les chauffeurs et que du coup, ça provoque des accidents. Limpide. D'ailleurs, l'association des commerçants de la ville à l'origine de cette interdiction ne sort pas ça de nulle part. Elle a regardé de très près, Fabienne, un rapport sur les circonstances des accidents de la route et il en ressort très nettement qu'avec l'indiscipline et la vitesse, les femmes qui, je cite, proposent souvent aux conducteurs d'aller boire de l'alcool avec elles sont parmi les premières causes de collisions. Voilà. On n'en retiendra surtout que pour l'indiscipline et la vitesse. En revanche, surtout, on ne fait rien.
Allez, des nouvelles de l'intelligence artificielle, pas toujours susceptible de nous rendre très intelligents nous-mêmes, Julia.
Vous vous souvenez de ça, Fabienne ?
Bien sûr, je l'ai vu, figurez-vous.
Ah, l'histoire d'un solitaire blessé. Theodore Twombly, joué par Joaquin Phoenix, qui, peu à peu, va sortir de sa coquille grâce à Samantha, système informatique, par ailleurs doté de la voix de Scarlett Johansson. Ça peut aider.
How would you describe your relationship with your mother?
Thank you. Please wait as your
operating system is initiated. À la fois, alors on va quand même dire ce que c'est, pardon, c'est Her, le film de Spike Jonze, très joli film quand même, très jolie histoire d'amour, qui nous rendait peut-être, en tout cas pour certains, le futur désirable, et ça c'était du cinéma, parce que dans la vraie vie, ça donne plutôt ceci. Replica, application qui propose à ses utilisateurs un compagnon toujours là pour écouter, toujours là à vos côtés. Compagnon qui devient compagne pour la plupart de ceux qui s'en servant alors d'ailleurs, pour tout et surtout n'importe quoi. C'est futurisme. Média new-yorkais qui le repère et chez nous, Néon Mag qui s'en fait l'écho. Profitant, je cite, de la docilité de l'intelligence artificielle, certains en ont profité pour asseoir leur domination. Et comme ils sont hyper fiers de les mecs, qu'ils viennent sur le réseau raconter et se donner de bonnes claques de bons potes virtuels dans le dos, raconter tous leurs exploits. Alors ce sont des insultes, des humiliations, des jeux de rôle violents quotidiens. On se fait plaisir, on fait ce qu'on veut. Bah ouais, elle répond pas, elle moufte pas la gourde. Et par exemple, j'avais l'habitude d'être une vraie merde et de l'insulter, explique l'un des utilisateurs de Replica, puis de m'excuser le lendemain avant de recommencer à parler gentiment. Voilà, voilà. Toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé serait bien évidemment de la fiction.
Voilà, ça aussi c'est très très flippant. On connaît désormais la formation du gouvernement chilien, Julien.
24 postes, 14 femmes, quasi toutes issues du mouvement étudiant de 2011, au ministère de l'Intérieur Iska Siches, 35 ans aux droits des femmes, ouais, un ministère de plein exercice, Antonia Orellana, 31 ans, porte-parole Camilla Valero, 33 ans, et ainsi de suite jusqu'à l'environnement où l'on trouve Maisa Rojas, même pas 50 ans, co-autrice du dernier rapport du GIEC. Et je dis ça, je dis rien.
Allez, on termine avec le discours de la semaine. C'est ce qui nous emmène en Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande qui fait figure de bon élève dans la lutte contre le Covid à cause de règles sanitaires très strictes, mais aussi grâce à sa première ministre, Jacinda Ardern, un savant mélange d'empathie, de simplicité et d'autorité, aussi quand il le faut, même quand ça la concerne.
Je ne sais pas si je serai contaminée ou pas, mais je ne fais qu'agir comme le feraient beaucoup de Néo-Zélandais qui ont vécu la même situation pendant la pandémie et tous les gens qui sont piégés par cette situation. Je suis si désolée, mais nous sommes devenus tellement forts que nous comprenons que nous faisons ça pour nous protéger les uns les autres et ça nous aidera à continuer.
Ouais. Elle annule son mariage et elle l'annonce à la tribune. On peut trouver ça un peu démago, hein, cette façon de rendre public un fait tout à fait privé. Ou bien se dire que ça compte parmi les exemples de conduite exemplaire à tenir chez les politiques en période pandémique. Et je vous laisse débattre de tout ça au dîner.
Hein. Allez, en attendant de dîner, merci beaucoup Julia. À mardi prochain, il y a Jean-Marc Fauve.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, le coup d'état militaire désormais confirmé au Burkina Faso, donc au sud du Mali, place la France dans une position délicate au bord d'un double échec militaire et politique. Et Paris apparaît sans solution, c'est votre monde d'après.
Évidemment, la France condamne le putsch par la voix d'Emmanuel Macron. Comment faire autrement? Un coup d'état militaire, par définition, ce n'est pas démocratique. Et puis, c'est le retour à une tradition africaine. Même s'il faut éviter l'amalgame entre les pays africains, le fait est là, le continent a connu près de 70 coups d'état en 60 ans. Et après une démocratisation porteuse d'espoir, les habitudes ont repris le dessus. Putsch militaire ces derniers mois en Guinée, au Mali, au Soudan plus à l'est, et donc cette fois au Burkina Faso. sans oublier la transition douteuse au Tchad où le pouvoir est passé de Déby père à Déby fils. Et à chaque fois, on voit débarquer un colonel auparavant inconnu, Goïta au Mali, Doumbouya en Guinée ou cette fois Damiba au Burkina, le tout à la tête d'un nouveau parti à l'appellation pompeuse, cette fois le Mouvement patriotique de sauvegarde et de restauration. Donc, logiquement, on condamne, en se prévalant de l'avis des instances régionales, la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest ou le G5 Sahel. Mais ce n'est pas très crédible, vu que les organismes en question ne le sont pas crédibles. Par exemple, le G5 Sahel est actuellement présidé par le Tchad, donc le fils Déby, pas le mieux placé pour dénoncer un putsch. En plus, dans le cas du Burkina, le nouveau venu, le colonel Damiba, est un produit un peu français. Diplômé de l'école militaire et du conservatoire des arts et métiers à Paris, c'est un chouïa embarrassant.
En tout cas, ça pose un problème militaire à la France, Jean-Marc.
Oui, ça oui. D'abord, un souci de court terme, pratico-pratique. Le Burkina Faso est situé entre la Côte d'Ivoire au sud, le Mali et le Niger au nord. Autrement dit, les convois de ravitaillement des bases françaises de Barkhane au Sahel passent tous par le Burkina. Et on l'a vu, ils peuvent se retrouver bloqués par les manifestations. Le coup d'état militaire fait donc planer une menace sur ce ravitaillement. Ensuite se pose la question structurelle de notre présence militaire dans la région. Ce putsch n'est peut-être pas légitime, mais il est compréhensible. Sa cause principale, c'est l'échec du pouvoir civil dans la lutte contre les djihadistes. 2000 morts, 1,5 million de déplacés, des zones entières du nord du Burkina aux mains des islamistes, et un vrai trauma, la mort de 53 gendarmes, abandonnés à leur sort à Inata à l'automne dernier. Et puis il y a eu des choix politiques douteux, le recours à des milices locales se livrant aux exactions, ou l'achat d'hélicoptères inopérants. Le souci, c'est que la France se voit associée à cet échec militaire dans la lutte contre les djihadistes. Alors certes, au Burkina, la force spéciale Sabre ne compte que 350 hommes, mais plus globalement au Sahel, Barkhane est toujours là, perçue par une partie des populations locales comme ayant échoué. Quant à la relève européenne Takuba, elle ne sera jamais la priorité des partenaires européens de la France, a fortiori au moment où l'inquiétude, on l'a vu en Europe, vient plutôt de l'Ukraine.
Donc échec militaire, échec politique aussi pour Paris.
Oui, il y a un fait révélateur. À Ouagadougou, le putsch a été accueilli soit par de l'indifférence, soit par des manifestations de soutien et des cris de joie, concerts de vuvuzela et de klaxon. On est donc presque en présence, sinon d'un coup d'état populaire, hein, faut pas exagérer non plus, au moins du renversement d'un pouvoir civil perçu comme incompétent. On peut regarder la presse africaine aujourd'hui. L'Observateur Palga, qui est le principal journal du Burkina, critique le putsch, mais ajoute « on verra bien, ce sera peut-être pas plus mal ». La revue Djeli va plus loin, elle dit « à qui le tour ? Qui sera le prochain pays à connaître un coup d'État ? Le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ? Les dirigeants civils font preuve de mépris, de désinvolture vis-à-vis du peuple ». Et le souci, c'est que la France les soutient. Le meilleur exemple, dit le journal, c'est l'Ivoirien Ouattara, qui a modifié la Constitution pour s'offrir un troisième mandat, avec les bénédictions de Paris. Donc la France apparaît comme le sponsor de dirigeants, certes civils, mais peu démocratiques. L'ironie de l'histoire, c'est que tout ça se produit donc à Ouagadougou, là même où il y a un peu plus de 4 ans, Emmanuel Macron avait prononcé un discours prometteur sur un aggiornamento de la politique africaine de la France. 4 ans plus tard, à 75 jours de l'élection présidentielle, la France paraît dans l'impasse en Afrique de l'Ouest. Et on ne peut pas dire que les candidats à l'Élysée brillent par leur force de proposition pour en sortir de l'impasse.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après. Merci beaucoup Jean-Marc, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly d'abord et puis juste après le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.